Et avant d'ouvrir notre Bible et d'entendre les lectures proposées pour ce jour, je vous invite à prier afin que ces quelques paroles que nous allons entendre deviennent pour chacun et pour chacune d'entre nous des paroles vivifiantes. Illumine, ô Seigneur, nos esprits embués et donne-leur clarté. Visite, ô Seigneur, nos esprits qui t'attendent et donne-leur présence. Entre, ô Seigneur, dans la faille de nos cœurs et les comble de plénitude. Amen. Et donc nous continuons notre série de prédications sur les textes souvent choisis lors des baptêmes et des bénédictions de mariage. Alors bon, je ne savais pas qu'il y avait un baptême aujourd'hui, et aujourd'hui c'est plutôt un texte choisi pour les mariages, mais bon, c'est celui des noces de Cana. Texte bien connu de l'Évangile selon Jean au chapitre 2. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, qu'avons-nous de commun dans cette affaire ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui portèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appelle le marié et lui dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis, quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et puis, tout à fait à la fin de l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 30 et 31. Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous voyiez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Alors, en réalité, peu de textes bibliques parlent de noces. Peut-être celui-ci est tout à fait unique et exceptionnel. Alors, probablement que c'est pour cela qu'il séduit certains futurs époux. Pourtant, à l'écoute de cette histoire, on n'entend absolument pas la manière de célébrer la bénédiction d'un mariage. On n'a pas vraiment un mode d'emploi pour avoir une vie heureuse. On ne sait même pas trop exactement comment se déroule la cérémonie du mariage. Y en avait-il une d'ailleurs ? Ici, pas d'échange de promesses, pas de bénédiction des époux. Il ne s'agit donc aucunement d'un mode d'emploi de noces ou de mariage, avec, comme vous l'avez entendu, Marie qui serait une sorte de wedding planner, en tout cas, elle prend vite sa place, mais non, il ne s'agit pas vraiment de cela. Tout ce que l'on apprend, c'est qu'il fallait effectuer un rite de purification avec de l'eau, probablement ce lavement des pieds que l'on va retrouver plus loin dans l'Évangile de Jean, et que pendant les mariages, on buvait du vin. Et ça, c'est bien, parce qu'aujourd'hui encore, pendant les mariages, on boit encore du vin. ce qui indique le caractère tout à fait festif des noces. Mais en tout cas, rien de vraiment spirituel ou sacré si on reste un peu de manière littérale sur ce texte. Mais en réalité, ce récit n'a aucunement la fonction de nous donner des renseignements sur l'organisation d'un mariage. Par contre, il va nous mettre en route sur un itinéraire qui nous invite à croire. Car c'est bien la chute de notre histoire. Ses disciples crurent en lui. Je reviendrai d'ailleurs parce que c'est assez étonnant. Ainsi, nous assistons lors de ces noces au premier geste public de Jésus. Et à ce titre, il a une valeur d'ouverture, une valeur programmatique. Nous sommes donc invités, nous aussi, à travers la lecture de l'Évangile, à croire. Cet Évangile de Jean, qui est presque inclus entre ces deux exclamations de Jésus, puisqu'il se termine, juste avant ce que je vous ai lu tout à l'heure, par cette béatitude que Jésus adresse après avoir entendu la confession de foi de Thomas. Vous savez, Thomas qui croit enfin quand il a l'autorisation de mettre sa main, ses doigts sur Jésus pour voir s'il est vraiment ressuscité. Voici ce que dit Jésus après: « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». C'est donc à nous qui n'avons pas vu, que cet évangile est destiné. Nous sommes donc, pour revenir à notre histoire, à Cana, en Galilée, où se déroule une noce, en réalité une drôle de noce, où on perçoit plein de choses qui clochent, qui ne vont pas. Il manque de vin, incompréhension, quiproquos qui vont jalonner toute notre histoire. Et c'est à partir de nos étonnements que nous pouvons chercher le sens de ce signe qui ouvre l'Évangile. En effet, et j'ai souvent l'occasion de le dire au moment où nous faisons des partage biblique et dans ces moments-là, ou de catéchisme pour adultes, qu'il faut lire le texte en essayant de garder ses étonnements. Non pas toujours avec nos lunettes de catéchisme ou celles des tableaux, des magnifiques choses qui vont être représentées à partir de ces scènes bibliques, mais essayez de voir dans ces textes ce qui peut encore nous étonner. Si vous lisez bien les noces de Cana, il y a de nombreux sujets d'étonnement. Et c'est à partir de là que j'avais envie de partager avec vous. D'ailleurs, on sait bien, depuis des études récentes, que finalement, l'évangile de Jean a une forte valeur symbolique. Et c'est pour ça que nous ne lisons pas de manière littérale. Même si je dois dire que je trouve plutôt sympathique que le premier signe soit justement un signe qui nous invite à la fête. Mais en réalité, l'évangéliste Jean, qui nous invite à croire, à aimer, à découvrir toute la force et toute la personne du Christ, va utiliser en quelque sorte dans son évangile une certaine ironie, certains malentendus, et c'est vraiment là tout ce qu'il y a dans notre récit. Comment comprendre en effet cette exclamation finale? Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples mirent sa foi en lui. C'est quand même assez étonnant d'entendre « il manifesta sa gloire ». Parce que qu'est-ce qu'a fait Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné du vin, du très bon vin même, à des personnes qui probablement n'étaient même pas capables de savourer ce vin, qui était à moitié ivre probablement, puisqu'on est plutôt vers la fin des noces. Et finalement, est-ce que c'est vraiment glorieux? Alors autant, oui, on peut comprendre lorsque Jésus guérit, lorsque Jésus effectue d'autres miracles, toute la puissance de ces miracles. Mais là, vraiment, qu'y a-t-il de glorieux? J'ai l'impression, en fait, d'assister à un tour de passe-passe, vous savez, où on soulève un chapeau et puis à la place de l'eau, on va trouver du vin. N'importe quel prestidigitateur est capable de faire ça. Alors, y a-t-il quelque chose de glorieux là-dedans? Peut-être que cette exclamation nous invite à aller un peu plus loin dans notre lecture, à approfondir. Parce que, en réalité, il faut bien l'entendre, le mot miracle n'est jamais prononcé. D'ailleurs, il n'est jamais prononcé dans l'évangile de Jean. C'est le mot signe qui nous est dit. Le mot signe. Eh bien, le mot signe nous invite pas forcément à avoir une manifestation de puissance, mais nous invite à croire, à interpréter, à chercher quel est le sens profond qu'il peut y avoir, eh bien, dans ces histoires. Et puis, je dirais que derrière ces histoires, derrière la manière dont nous sommes invités à interpréter le texte biblique, nous sommes également invités à interpréter en même temps, eh bien, nos existences. C'est cela qui nous est offert déjà là, dès l'ouverture. Alors oui, ce n'est pas un miracle, c'est un signe qui nous propose d'entrer sur un chemin d'interprétation. Cana donc est le lieu de la noce, il est le moment d'un signe, je dirais même peut-être du signe par excellence, puisque c'est, on nous le dit, le premier, ou plutôt le commencement. D'ailleurs, tiens, commencement, c'est tout de même un mot intéressant. Commencement. D'ailleurs, l'évangile de Jean commence par ce « au commencement ». Commencement, ça nous rappelle, évidemment, ça nous renvoie à un commencement primordial, ça nous renvoie à la Genèse. Et puis, d'ailleurs, Cana, en fait, on ne sait pas trop où c'est, mais Cana, en fait, c'est un verbe hébreu qui veut dire aussi, eh bien, créer, acquérir. Cela nous indique déjà que peut-être là, il y a quelque chose qui se joue comme une sorte de nouveau commencement. Ensuite, eh bien, nous sommes à Cana, en Galilée, dans un cadre bien particulier, celui de noces. Et les noces, eh bien, les noces représentent, dans l'Ancien Testament, eh bien, les noces représentent l'alliance de Dieu et de son peuple. Alors, nous sommes là, dans le cadre d'une alliance, mais d'une alliance qui va basculer probablement. Et c'est ce que signifient aussi tous les éléments qu'il peut y avoir tout au cours de ce texte. Les noces, donc, nous assistons à des noces étonnantes. D'ailleurs, ce qui peut nous étonner aussi, c'est une absence à mon avis importante. Alors elle est peut-être là, mais en tout cas on ne le sait pas, la mariée n'est pas là. Alors on va essayer de voir aussi pourquoi la mariée n'est pas là. Et dans cette noce, dans le cadre de cette fête, il y a un manque. Ils n'ont pas de vin. Et voilà. Voilà que dans ce cadre, eh bien, il y a un manque. Comme pour nous dire que peut-être, dans cette alliance telle qu'on peut l'imaginer entre Dieu et son peuple, peut-être qu'il y a un manque tel qu'on l'imagine. Peut-être que dans nos vies aussi, il y a des manques. Ils n'ont pas de vin. Alors, c'est quand même important. Et là, je voudrais montrer que Jean, qu'on qualifie souvent comme l'évangéliste le plus spirituel, est en train, à travers cette histoire, eh bien, d'ouvrir l'évangile de manière à nous inviter à lire peut-être autrement que de manière trop spirituelle. Parce que probablement qu'à son époque, il s'oppose à une spiritualisation ascétique excessive. Mais aujourd'hui, elle existe encore, cette spiritualisation excessive, ces donneurs de leçons et de morale. Eh bien oui, Dieu nous invite à la fête. C'est pour cela qu'il va donner du vin de manière abondante. Et je pense que nous pouvons aussi entendre encore cela, que la bonne nouvelle, l'évangile, c'est quelque chose en effet de joyeux, parce que Dieu nous donne du vin, c'est-à-dire le signe de la joie et de la fête en abondance. Ça gomme pas les difficultés et tout. D'ailleurs, ce qui va suivre dans l'Évangile, eh bien, nous montre combien Jésus va devoir affronter des forces sombres, des forces qui vont le mener à la croix. Mais dans l'ouverture, on nous annonce la fête, comme pour nous dire que malgré tout et contre tout, nous sommes invités à nous réjouir, en tout cas à être dans la joie de Dieu. Il n'y a pas de vin, il faut donc du vin. La mère de Jésus entend ce besoin. Et la réponse possible à lui apporter se situe probablement pour elle encore au niveau de l'ancienne alliance. Mais là, dans notre récit, il va y avoir un décrochage. Et c'est tout à fait important. Lorsque Jésus dit « Femme, qu'avons-nous de commun dans cette affaire ?» Alors là, pour traduire, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, c'est pratiquement intraduisible ce qu'avons-nous de commun dans cette affaire ? Déjà, ce femme, eh bien, oui, il appelle sa mère femme, comme non pas pour la rejeter, mais la mettre à distance peut-être. Alors, il peut y avoir plein d'interprétations. Cette femme n'est probablement pas un manque de respect, mais peut-être une manière d'arriver et de dire la distance qu'il peut y avoir entre elle et lui. Que désormais, ce ne sera plus la distance entre une mère et son fils, mais la distance entre une femme et lui-même. Mais cela, nous pouvons aussi l'entendre. Et qu'avons-nous de commun dans cette affaire ? C'est une manière aussi de la mettre à distance. Et je pense que dans cette courte phrase, il y a une vraie réflexion sur la bonne distance à avoir. Si on fait attention un peu dans les autres évangiles, on voit aussi que ce « Qu'y a-t-il de commun entre toi et moi ?»« Quoi entre toi et moi ?» exactement en grec, eh bien, permet d'établir une distance, cette bonne distance qui permet justement à chacun et à chacune de vivre pleinement. D'ailleurs, Marie ne s'en offusque pas. Au contraire, elle va entendre et puis elle va continuer. Elle va se mettre à croire en lui. Peut-être qu'elle est la première disciple, elle, puisqu'elle va tout de même voir les serviteurs et leur donner l'ordre, eh bien, de faire ce qu'il dit. Ainsi, même mise à distance, peut-être que parce qu'elle est mise à distance, elle devient pleinement femme, justement. Désormais, son salut n'est pas dans sa fierté d'être mère, mais dans l'accueil d'une parole, la parole de son fils, qui la met à distance de ses certitudes pour l'enraciner en Christ, seul, qui donne sens à sa vie, en dehors d'elle-même, et qui donne sens aussi à ce monde. En réalité, je pense que l'évangile de Jean, qui fait l'économie de la naissance de l'enfant Jésus, eh bien, ne fait pas l'économie de la mise au monde du Christ, du Jésus, qui va marcher sur les routes de Galilée jusqu'à la croix et la résurrection. Ainsi, à travers cette petite phrase, s'ouvre une porte, porte qui va permettre la transformation. Transformation de cette mère en disciple, transformation de Jésus, l'invité, en époux et du maître et en maître de repas presque, dont il va prendre les attributions. Et comme signe de ces transformations intérieures qui ne sont pas visibles, eh bien, le changement de l'eau en vin et de l'abondance en surabondance. Jésus cesse donc d'être l'invité d'une noce dans le cadre de l'ancienne alliance pour devenir l'ordonnateur d'un nouveau festin. Un nouveau festin où on ne profitera plus de l'ivresse des convives pour leur servir du vin moins bon, mais qui au contraire se déroule sous le signe de la qualité et de l'inépuisable. De plus, on voit encore que les cuves destinées à la purification sont devenues de fait des cuves destinées aux libations. En réalité, il y a dans tout ce texte, dans tout ce court récit, plein d'humour qui devrait nous inviter à sourire. En effet, plein de quiproquos, les serviteurs savent, mais celui qui s'adresse après à l'époux, ce ne sont pas eux. Les disciples croivent alors qu'en réalité, ils ont disparu. Qu'ont-ils vu ? Probablement pas grand-chose, mais l'évangile de Jean fait une rupture totale entre le voir et le croire. Le croire se signifie bien ailleurs. Le croire se signifie dans la confiance que l'on peut mettre en Christ. Ainsi, on peut l'entendre comme cela. Je voudrais juste rappeler de cette distance nécessaire, cette bonne distance. Eh bien, Jésus aussi, on le voit là, agit en toute liberté. Il ne va pas répondre directement à sa mère qui lui demande de faire en quelque sorte un miracle, un signe, mais bon. De toute façon, Jésus a toujours refusé de faire des miracles quand on lui dit. En fait, il la met à distance et lui prend aussi de la distance pour pouvoir, en pleine liberté, faire ce qu'elle attend de lui. Mais il ne le fait pas parce qu'on lui demande. Il le fait parce que c'est nécessaire. En réalité, il y a quelque chose de très important, prendre la bonne distance pour ne pas céder directement à ce que le monde veut de lui. Et peut-être que nous pouvons entendre ne pas céder directement à ce que le monde veut de nous. Alors souvent, il y a des tensions parfois au sein des églises chrétiennes en général entre ce que le monde veut et ce que nous, nous souhaitons et la parole que nous avons à faire entendre. Souvent, on dit, eh bien, puisque le monde, on condamne tout le temps le monde. Je ne crois pas qu'il faille condamner systématiquement le monde et l'appel du monde, l'appel qu'il fait aux chrétiens. Parce que nous sommes dans un monde et nous devons bien y vivre. Et par contre, nous avons à avoir une distance critique par rapport à cela pour pouvoir enraciner nos engagements. Cette distance critique, elle est là, là dans cette petite phrase. Qu'y a-t-il de commun entre toi et moi ? Qu'y a-t-il de commun ? La distance nécessaire, prendre un peu de recul. Alors là, ça va très vite, mais vous savez, dans les pièces de théâtre aussi, tout doit se passer en une journée, voire en quelques heures. Nous avons, nous, plus de temps pour réfléchir, pour regarder notre monde et pour voir comment peut s'enraciner notre action, comment peut s'enraciner notre parole, quelle parole nous pouvons proclamer. Il ne faut pas systématiquement condamner. Il faut avant tout interpréter, entendre, faire vivre à la fois la parole de Dieu dans un monde, c'est parfois aussi accepter les changements. Et là, Jésus, il va non seulement accepter les changements, mais il va les provoquer. Il va accepter ce que sa mère lui demande et il va provoquer la possibilité vers un passage nouveau, vers autre chose. Alors, nous le voyons bien, je vais revenir dans ce cadre de la noce, eh bien, dans ce cadre de la noce, nous pouvons entendre que désormais, avec la venue du Christ, eh bien, nous sommes dans un monde où la joie nous est promise. Elle nous est promise en surabondance. Elle ne manquera jamais. Alors, les cuves, ça fait au moins 500 litres. Hein, c'est un peu difficile à calculer, mais vous voyez que 500 litres, quand même, c'est énorme. Ça nous montre la surabondance, presque la démesure, en réalité. Et ce qui se passe, c'est que, vous l'avez entendu, je l'ai dit à plusieurs moments, il y a un glissement des rôles. Jésus devient, en effet, l'époux. L'époux. Nous sommes dans le cadre d'une alliance, de cette ancienne alliance où l'époux, eh bien, était Dieu et la mariée, l'épouse, était Israël. Nous sommes dans le cadre d'une nouvelle alliance où c'est en Christ que se manifeste l'époux, que se manifeste Dieu. Et alors, qui est la mariée ? Eh bien, en abolissant les rites de purification, eh bien, Jésus ouvre de manière universelle, eh bien, la parole. La parole s'adresse à tous et toutes peuvent recevoir cette parole. Il n'est plus question de savoir si c'est pour la purification. Non, il la donne à tout le monde. Désormais, cette nouvelle alliance est non seulement sous le signe de la joie, de la surabondance, mais elle est pour toutes. Et finalement, cette mariée, si absente de notre texte, si ce n'était pas nous la mariée, si ce n'était pas nous qui étions invités à épouser Dieu dans ce cadre de cette nouvelle alliance, de faire union avec Dieu pour que, eh bien, le monde puisse entendre sa parole. C'est un signe également, et je pense que c'est important, tout à fait secret. Mais ce signe secret, eh bien, il est là encore aujourd'hui. Il est probablement d'ailleurs encore un peu trop secret, parce que les témoins de ce signe, eh bien, ou ceux qui le reçoivent, comme nous pouvons le recevoir, sont encore assez peu nombreux. Ainsi, le signe reste secret, mais nous sommes invités, nous, à le dévoiler, à devenir les serviteurs et les disciples. Parce qu'on voit bien que les serviteurs savent et les disciples croient. En réalité, nous sommes invités à nous mettre au service. Et c'est cela aussi que nous dit tout l'évangile de Jean, se mettre au service de Dieu, au service des autres. Et nous sommes invités pour cela, dès le début de l'évangile, à croire au signe de Cana. Non pas à savoir si c'est vraiment passé cela, peu importe, ça m'est bien égal personnellement que Jésus ait changé l'eau en vin. Comme je vous l'ai dit, il y a un tas de gens qui n'ont aucune importance et qui savent faire cela. D'ailleurs, ce n'est pas cela qui nous est dit et c'est ce que j'ai essayé de partager avec vous. Nous croyons tout simplement que l'eau, cette eau nous ramène à la simplicité et que ce vin nous ramène à la joie. Mais croyons-nous véritablement dans nos existences à cette transformation pour nous et à cette transformation pour le monde. Ils n'ont pas de vin, constate la mère de Jésus. Parfois aussi, nous sommes à sec, dans l'aridité, dans l'angoisse, dans l'impuissance. Eh bien, nous avons cette promesse, ce signe qui nous dit que Jésus nous désaltère, que Jésus nous invite à refuser de nous identifier à lui aussi, au point de nous croire appelés à porter toute la misère et tout le péché du monde. Nous sommes là aussi pour l'appeler et pour lui dire tout simplement « Je n'ai plus de vin, je n'ai parfois même plus d'eau, je suis complètement à sec, mais je le sais, tu peux transformer cette aridité, ce manque, eh bien, en abondance. » Alors, oui, nous sommes invités à croire et à vivre de ce signe de Cana, ce signe qui nous permet de mettre nos pas dans ceux du Christ, mais surtout qui nous permet de le recevoir, de l'appeler, de crier vers lui « Je n'ai pas de vin, mais toi, tu peux à nouveau me rendre la joie. » Amen.